changer nos regards, Michel Halberstadt.
Bonjour, bienvenue dans le jour 5 de notre émission Les 10 films qui ont changé nos regards. Aujourd'hui, jusqu'à midi, une filature, un suicide, un amour fou, une résurrection, une femme fictive, une femme réelle. Le film le plus fétichiste, le plus obsessionnel, le plus métaphysique aussi d'Alfred Hitchcock. Aujourd'hui, nous évoquons Vertigo, appelé en français Sueur froide, allez savoir pourquoi. Un film très décrié au moment de sa sortie en 58, on peut même parler d'échec critique et commercial. Un film qui pourtant, depuis 20 ans et encore aujourd'hui, figure en tête de toutes les listes comme étant le premier, le plus important film du monde. Une couronne qu'il dispute généralement, soit à Citizen Kane, soit au mépris. Pour évoquer Vertigo avec nous, aujourd'hui une jeune femme qui est à la fois scénariste et réalisatrice et que je suis vraiment ravie de recevoir. Bonjour Alice Vinocourt.
Bonjour.
Alors Alice, vous faites des études de droit avant d'entrer à la FEMIS, section scénario. Vous réalisez 3 courts-métrages, dont l'un Kitchen est sélectionné à Cannes en 2005 et remporte le prix grâce à voix du court-métrage. Ensuite, vous participez à l'écriture de Home d'Ursula Mayer et co-signez le scénario de Ordinary People de Vladimir Perezik, deux films qui sont présentés à la Semaine de la Critique. Et c'est à la Semaine de la Critique que vous présentez votre premier long-métrage en 2012, Augustine, avec Vincent Lindon, Soko et Chiara Mastroianni, l'histoire d'une repossession, comment une jeune fille va regagner son corps. En cela, peut-on lire dans les Inrocks, vous faites mieux que Cronenberg, Kechiche ou Aronofsky. Pas mal. Le film sera nommé au César du meilleur premier film. En 2014, vous coécrivez le scénario du Mustang, réalisé par Denis Gamzeer-Guven, qui est présenté à la quinzaine des réalisateurs, qui remporte le César du meilleur scénario et qui représente la France aux Oscars. En 2015, c'est votre deuxième film, Maryland, avec Diane Kruger et Mathias Schoenaert, qui est présenté à Un certain regard au Festival de Cannes. En 2016, vous faites partie du jury de la Semaine de la Critique et en 2017, du jury du Festival américain de Deauville. En 2018, vous collaborez à l'écriture de Mignonne de Maïmouna Doucouré, qui remporte le prix du scénario au Festival de Sundance. En 2019, c'est Proxima, avec Eva Green, Matt Dillon et Lars Eidinger, qui remporte une mention au Festival de Toronto et surtout le prix spécial du jury au Festival de Saint-Sébastien. Un film où une femme, super-héroïne s'il en est, puisqu'elle est astronaute, est aussi la mère d'une petite fille. C'est votre façon de rendre hommage à toutes ces femmes qui tentent de concilier leurs rêves et leur vie privée. À la rentrée, vous mettrez en scène votre nouveau film avec dans les rôles principaux Virginie Efira et Benoît Magimel. Une femme objet du désir masculin qui veut devenir le sujet de son désir, c'était ce dont parlait Augustine, votre premier film. C'est aussi une lecture possible de Vertigo. Vous qui aimez le romantisme noir et le gothique anglo-saxon, vous avez dû plonger dans ce film avec délice. Est-ce que vous vous souvenez quand vous l'avez vu la première fois ?
Alors oui, je me rappelle très bien, c'était quand j'avais 6-7 ans.
Oula, c'est tôt.
Oui, c'est tôt parce qu'en fait, ma mère enregistrait des films sur parce qu'il y avait un magnétoscope à la maison. Et en fait, elle enregistrait plein de films. Il y avait d'ailleurs des films qui étaient à moitié enregistrés. Enfin, donc voilà, c'était les films d'Hitchcock, ils étaient en entier. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on les regardait comme ça de manière complètement compulsive et obsessionnelle avec mon petit frère. Donc on les voyait parfois plusieurs fois par jour, en Psychose spécialement en fait, c'était carrément au centre de nos jeux. Donc voilà, j'ai un rapport pour moi, j'ai pas un rapport de cinéaste à ces films, ni à Vertigo d'ailleurs, parce que je l'ai vu aussi à cette époque-là, parce que ces films je les ai vus avant même de savoir que je voulais faire du cinéma. En fait voilà, c'est les films qui ont changé notre regard, mais là je pourrais dire même que c'est des films qui ont construit mon regard, qu'en fait je pense que cette grammaire inconsciemment a dû aussi me marquer.
Qu'est-ce que vous aviez compris de Vertigo à l'époque, vous vous souvenez de
Je pense que c'est une sorte de rapport justement à l'image, à l'idée d'une image qui s'adresse directement au système nerveux, sans passer par la case de l'interprétation, qui parle directement à l'inconscient. Donc en fait voilà, j'ai pas un rapport d'interprétation à ces films quoi. Il y a aussi l'idée du cinéma comme une sorte de d'expérience physique, sensorielle, quelque chose oui, qui parle à l'inconscient, je pense.
Et on va commencer par le début. Ce générique absolument incroyable de Saul Bass qui commence en noir et blanc comme pour mieux nous annoncer la couleur, puisque couleur il y aura, et ce rouge sang. Et déjà, cette idée de spirale qui va habiter tout le film. C'est quelque chose d'important pour vous, les génériques ? Vous comprenez qu'on engage quelqu'un comme Saul Bass pour faire un générique ?
Oui, enfin, ce qui est surtout assez impressionnant dans ce film, c'est déjà le corps de cette femme qui est complètement morcelée, fragmentée, regardée avec une sorte de regard d'entomologiste un peu. Il y a aussi ce rapport de fascination parce qu'il y a cette espèce de spirale. C'est vraiment une sorte d'hypnose. L'hypnose du cinéma, donc voilà, ça, c'est vraiment ça, ça impressionne la rétine.
Alors c'est vrai qu'on voit d'abord ses lèvres et après son œil, et le titre sort de l'œil. Et généralement dans les effets de générique, vous avez un effet au début puis l'effet disparaît, tandis que là pour une fois l'effet revient, c'est-à-dire que le générique sort de son œil et à la fin il retourne dans son œil. C'était une des premières fois que Saul Bass faisait un générique et on peut dire qu'il l'avait pas raté. Alors on va quand même résumer l'intrigue de Vertigo, parce que tout le monde ne l'a pas vu. C'est l'histoire d'un inspecteur de police, joué par James Stewart, qui perd son travail parce qu'il a le vertige. Et il tombe sur un ancien ami de classe qui lui demande alors de suivre sa femme, car il a peur qu'elle ne se suicide. Il la prend en filature, il tombe amoureux d'elle, mais sa peur lui vide, l'empêche de la sauver. Elle va sauter d'un clocher sous ses yeux, désespérée. Le pauvre flic qui s'appelle Scotty traîne sa dépression, jusqu'au jour où dans la rue, par hasard, il croise Judy, une femme qui est aussi rousse et vulgaire que la précédente Madeleine, celle qui suivait était blonde et chic, mais pourtant il voit bien que les deux femmes se ressemblent, alors il décide de transformer la rousse et d'en faire la copie conforme de la blonde qu'il a aimée et perdue. Vertigo, d'Hitchcock, un film qui fascine depuis toujours.
C'est un film qui a littéralement fasciné toute une génération, disons, et qui est devenu, d'ailleurs à proportion de sa disparition, puisque pendant très longtemps il n'a pas été revu, qui est devenu une sorte de film culte, c'est-à-dire qu'une sorte de secte, comme souvent on la trouve dans les milieux cinéphiliques, se constituait de gens qui avaient vu, qui adoraient ce film, qui en parlaient, et puis avec quelque chose un peu de cet orgueil et de cette vanité de ceux qui sont les seuls à l'avoir vu. Et pendant des années, il était question de ce film.
Donc vous voyez, vous avez de la chance de l'avoir vu petit en vidéo, parce qu'il a disparu pendant 20 ans ce film.
Oui, non, mais moi, c'est ça, c'est que pour moi, c'est comme un souvenir d'enfance presque. J'ai pas du tout ce rapport de critique
fétichiste
à ce film. Mais c'est vrai, il y a quelque chose de fascinant, il y a une sorte de mystère autour du film et j'ai l'impression que plus on plonge dans ce mystère, plus on essaye de comprendre le film et de l'interpréter, moins on le comprend finalement. J'ai l'impression que tout le monde s'est un peu heurté à ça.
Alors ce qu'il y a d'étonnant dans cette histoire, c'est qu'effectivement le film a disparu, il a été retiré de la distribution en 68, et puis après on ne savait plus du tout où il était, il y a eu une mauvaise restauration en 84 et puis une très très belle restauration en 96, et il semblerait que la seule copie originale qui existe soit à la Cinémathèque, c'est Hitchcock qui l'avait offerte à Henri Langlois en lui disant « garde-la ». Et alors il y a quelque chose que je voulais vous demander, c'est qu'il l'a tourné dans un système qui s'appelle VistaVision, qui était en fait Paramount qui avait inventé ça pour concurrencer le Technicolor inventé par un autre studio. Et donc il y a tout un truc sur la VistaVision et sur le fait que c'est très bon en gros plan mais ça rend les fonds complètement flous. Quel rapport vous avez avec le choix de caméra, le fait que maintenant on est en numérique et que ça n'a plus aucune importance? C'est quoi votre rapport avec tout ce fantasme de la technique, de la copie et du numérique?
Pour moi l'image c'est quelque chose, de l'aspect plastique de l'image, c'est d'ailleurs quelque chose dans Vertigo, il y a une vraie poésie visuelle, c'est très pictural quoi, c'est vraiment des tableaux, il y a ce rapport à la couleur, au vert, le néon vert, quand elle sort des toilettes, tout est vert en fait.
C'était la couleur préférée d'Hitchcock, le vert.
Ah bon? Ouais. En fait, c'est aussi la couleur de la mort, la couleur du diable. D'ailleurs, le film Annette de Carax, c'est très vert.
Absolument,
très très vert. Ouais. Et c'est rouge aussi, il y a beaucoup de rouge, il y a tout le temps du rouge et du vert. Enfin, en tout cas, ce rapport plastique à l'image, à l'importance de l'image, c'est quelque chose qui m'impressionne, en tout cas qui est important pour moi. Après moi je suis aveugle d'un œil, donc je sais pas si ma vision est totalement normale, disons, mais c'est vrai que l'aspect organique de l'image, c'est quelque chose qui est important.
Mais ça vous viendrait à l'esprit de comme ça d'attribuer une couleur à un personnage comme il le fait dans Vertigo?
Oui, en tout cas, je trouve que c'est exaltant dans la direction artistique d'un film de penser comme ça, en fait. On sent qu'il y a vraiment toute une recherche et aussi qui s'inspire. Vous avez parlé du romantisme noir, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche énormément, en fait, ce rapport, enfin la peinture dont s'inspire le film, en fait, cette espèce de mélange de romantisme et de ténèbres. C'est la peinture pré-raphaélite, en fait, le moment où... où en fait elle saute en bas du Golden Gate, le personnage de Madeleine. C'est vraiment inspiré du tableau de Millais, de Ophélie dans l'eau, qui, on ne sait pas si elle dort, ou au milieu des fleurs, on ne sait pas si elle dort ou si elle est morte. Et donc là, elle jette le bouquet dans l'eau. C'est vraiment des références à toute cette iconographie. Donc en fait, je pense que pour Hitchcock, c'était aussi vraiment important en fait de toute cette peinture symboliste.
Alors, on l'a dit, c'est pas un Hitchcock comme les autres, c'est pas du tout un polar comme on s'y attendait. J'ai demandé son avis à Philippe Rouillet, qui est critique historien du cinéma. Pour lui, c'est un Hitchcock comment ?
Ce qui est fou quand on regarde ce film, c'est que c'est vraiment le film Hitchcock qui parle du sentiment amoureux. C'est pas du tout un thème hitchcockien. Bien sûr que ces personnages ont des histoires d'amour, mais l'amour n'est jamais le sujet du film. Alors que là, l'obsession amoureuse devient un sujet. Et on peut dire que, d'une certaine manière, le personnage du détective joué par James Stewart est amoureux du nombre. Alors en plus, ce qu'il faut bien voir, c'est que le film est une merveille de construction en deux parties qui se répondent, jusque dans les mouvements de caméra, hein, qui sont au départ droite-gauche et puis après qui deviennent gauche-droite. Mais dans la première partie, il suit une femme qui elle-même est sous l'emprise d'une autre femme. Et à côté de ça, il va tomber amoureux de cette fille. Et dans la deuxième partie, il n'aura que de cesse que de recréer cet amour, de réinventer cette femme qu'il a aimée. Et je crois que c'est depuis les années 90 que le film est maintenant en tête partout. Par exemple, à Positif, où je travaille maintenant, à chaque sondage, c'est toujours Vertigo qui est le film le plus aimé de tous les temps des rédacteurs et amis de la rédaction, quoi. Je connais pas aujourd'hui de cinéphiles qui me disent qu'ils n'aiment pas Vertigo. C'est assez fou. Alors que vous trouverez toujours des gens qui vous disent on n'aime pas le cuirassé Potemkin, ou on n'aime pas À bout de sous-bouche, ou on n'aime pas Citizen Kane ou La règle du jeu. Vertigo, ça fait vraiment l'unanimité. Peut-être qu'avec Vertigo, on se découvre davantage. Parce que ça touche à l'intime. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que là, on est là à parler de sentiments amoureux, de là, mais en même temps, c'est une histoire policière. En fait, l'enquête, c'est pas ce qui nous passionne le plus, nous, en tant que spectateurs, mais ce qui nous passionne, c'est cette relation amoureuse. Et donc, une fois que nous, on connaît la clé de l'énigme policière, le vrai suspense, c'est comment va se comporter James Stewart quand lui va apprendre la vérité, parce qu'on sait qu'avant la fin du film, il va l'apprendre. Et c'est l'éternelle histoire entre la surprise et le suspense. La différence que faisait Hitchcock, il a toujours dit qu'il préférait le suspense, parce que le suspense englobait beaucoup plus le spectateur que la surprise, où le spectateur était un peu en otage et tout d'un coup on lui annonce un truc, alors que là, toute la dernière demi-heure, on n'a plus du tout de suspense policier, mais on a un suspense, j'allais dire, sentimental.
Le suspense et la surprise, c'est une distinction que vous faites ?
Oui, forcément, mais je crois que Hitchcock, il parlait même de ça, des avions qui envoyaient une bombe tout de suite ou qu'on entendait de loin arriver. Oui, enfin, c'est sûr que ce film, il casse complètement les règles de la narration, et c'est ça aussi qui est exaltant, les règles d'Hollywood. C'est-à-dire qu'il révèle quand même à la moitié du film, ou je sais pas exactement à quel moment, mais très tôt, le suspense, quoi. Donc, en fait, l'histoire est pas si importante que ça. L'histoire est d'ailleurs très, parfois même incohérente. Et puis, toute la première partie du film, comme il le dit, c'est un homme qui suit une femme, tout simplement.
Et il n'y a pas de dialogue, d'ailleurs.
Il n'y a pas de dialogue, et il y a la musique de Bernard Herrmann. Aussi, c'est vrai que quand on a une musique comme ça déjà dans un film, je pense qu'on est déjà
bien tranquille
en termes d'image. Voilà, donc il y a une sorte de il y a cette idée un peu révolutionnaire de ce qu'il avait déjà fait d'ailleurs dans Psychose, quoi, de faire mourir la comédienne même encore plus tôt cette fois-là, et de se débarrasser de ses règles.
En fait, le suspense n'est plus pourquoi elle est morte, mais comment est-ce que le héros va comprendre la raison pour laquelle elle est morte. Donc
oui.
Il déplace le sujet en cours de film.
Déplace le sujet, et puis après c'est vraiment le mythe d'Orphée. Moi, c'est ça que je trouve très beau aussi. C'est vraiment Orphée qui va chercher Eurydice aux enfers et qui peut pas la regarder dans les yeux. Il y a vraiment cette idée quand elle sort des toilettes et qu'il l'a transformée en en Madeleine, qu'il a transformé Judy en Madeleine, donc dans cette icône rêvée, c'est vraiment comme si elle sortait du tombeau, quoi. Il a vraiment envie de coucher avec une morte dans en ça. C'est vraiment le film nécrophile, quoi. Le film, c'est très étrange, quoi, et c'est très bizarre.
C'est très culotté, surtout qu'on est en
ultra culotté.
On est en 58 quand même.
Oui, et puis moi, c'est ça que j'adore aussi dans les films d'Hitchcock, c'est l'érotisme des plans. Enfin, c'est toujours des gens qui ont peur du désir, qui ont peur de l'amour. Et en même temps, les plans sont ultra érotiques et ultra sensuels. Et il y a une sorte de décalage comme ça qui est assez fascinant.
Il y a à la fois de la sensualité et de la chasteté.
Oui, voilà.
Alors, exemple numéro un, ce que j'appelle la scène de la séduction dans le film. Madeleine est venue déposer une lettre chez Scotty. Ils se sont croisés devant la porte. Elle remonte dans sa voiture. Et il se penche vers elle.
Where are you going?
Vous allez où?
Oh, I don't know.
Shopping?
Je sais pas. Vous allez faire des courses?
Anywhere in particular?
Vous savez où
no,
vous allez?
I just thought that I'd wander.
Non, je vais me promener.
That's what I was going to do.
Ah, bah moi aussi, j'allais me promener.
Oh, yes, that's right, I forgot it. Your occupation.
Ah oui, c'est vrai que c'est votre occupation dans la vie. Bah, ce serait dommage de ne pas se promener ensemble. Oui, mais à deux, on ne se promène pas, on sait où on va.
Non,
je
ne
suis pas d'accord. Vous avez laissé votre porte ouverte. Je reviens. Voilà, il a refermé sa porte. Et ils sont partis en voiture. Dans ce décor de la baie de San Francisco, dont Hitchcock disait d'ailleurs que c'était pour lui un American Paris.
Ouais.
C'est marrant de voir Paris marrant. À San Francisco.
Ouais. C'est pas évident, mais.
Quant à Bernard Herrmann, il estimait que Hitchcock ne faisait un film qu'à 60% et que lui était responsable des 40% restants.
Et c'est pas faux, hein.
C'est pas faux. Et un jour, Spielberg l'a rencontré, il lui a dit: oh là là, j'admire tellement votre travail. Et Herrmann lui a dit: ah ouais, pourquoi vous m'avez jamais engagé? Doué mais conscient de son talent quand même, le jeune homme. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de Kim Novak.
Ah, très bien.
Alors vous me dites que vous adorez Kim Novak, c'est à cause de ce film ou l'avez vu dans d'autres films ou
non,
c'est sa personnalité?
C'est dans ce film, c'est que j'ai l'impression, effectivement, tout le film, donc c'est un homme qui suit une femme et qui est perdu face au mystère de ce féminin et du coup il y a vraiment, c'est vrai, cette espèce de fantasme sur le féminin qui est à la fois inquiétant et... Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une sorte de male gaze, on pourrait dire vraiment. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment la présence humaine de Kim Novak qui déjoue le programme du film, dans le sens où elle amène une sorte d'humanité, où elle est très réelle. Et du coup, elle-même, elle adorait le film, parce qu'elle disait que c'est exactement ce qu'elle vivait à Hollywood à ce moment-là. C'est-à-dire dans la fabrique des images, une image comme ça un peu irréelle de femme désincarnée. Elle disait qu'on voulait tout changer chez elle, qu'on la trouvait moche, qu'on voulait changer son nom, son identité. Et du coup, il y a quelque chose que je trouve vraiment touchant, enfin, parce qu'on sent vraiment sa détresse dans le film. Déjà, elle n'était pas choisie par Hitchcock, parce qu'il avait voulu que ce soit Vera Miles qui fasse le film, et elle avait carrément fait les essais costumes. Donc en fait, on sent, je trouve, dans le film, qu'elle n'est pas vraiment désirée par le réalisateur, qui voudrait que ce soit une autre. Donc déjà, dans l'inconscient du film, du tournage, elle joue le rôle de quelqu'un d'autre. Et puis après, j'ai l'impression aussi que sa détresse, en fait, elle était bipolaire.
Ah bon?
Ouais, et d'ailleurs, elle a fini par quitter Hollywood pour devenir sculptrice.
Oui.
Et du coup, je trouve qu'on sent dans ses yeux quand elle dit vous pourriez pas m'aimer pour ce que je suis.
Ah, c'était.
Pour moi, en fait, il y a toute sa détresse qui habite vraiment le film de son humanité.
Alors, Kim Novak, les transformations de Kim Novak et comment est-ce qu'elle a déboulé dans la carrière? Jean Narboni.
Hitchcock a détesté, enfin on connaît l'histoire, Kim Novak était terrorisée, Hitchcock l'a trouvée grosse, pulpeuse, anti-hitchcockienne, absolument, et donc l'a terriblement fait souffrir pendant le tournage. Et quand on voit le film, on s'aperçoit qu'en fin de compte, la terreur dans la deuxième partie de Judy, sous le regard inquisiteur et le modelage forcené de Scotty qui veut la faire rejoindre Madeleine, est absolument la terreur que l'actrice Kim Novak éprouve devant la caméra d'Hitchcock est quelque chose d'une sorte de frayeur au carré, celle de l'actrice et celle du personnage qu'elle incarne donne une dimension extraordinaire au film. Quand on connaît l'histoire, on voit Kim Novak devant ses marques et sous l'œil d'Hitchcock, et on la voit terrorisée.
On sent la peur dans tout ce film de Kim Novak qui dit « Je suis à la merci d'un metteur en scène » parce que l'anecdote est connue. Au début du tournage, elle est arrivée avec une idée sur le personnage, l'histoire et tout. Elle a voulu imposer ça. Elle était très star à l'époque. Je viens de faire quelques films qui a rendu très très célèbre. Et Hitchcock s'est enfermé parce qu'il veut pas parler dans les électriciens, comme il dit. Il s'est enfermé dans sa roulotte avec elle, dans sa loge. Et lui a dit « Moi, ce qui compte, c'est l'image de l'acteur sur l'écran à la fin. L'histoire, je m'en fiche. » Et donc, ce qui est rien de plus terrifiant pour une actrice qui doit composer. Et en même temps, il y a une espèce d'harmonie, enfin de parallèle incroyable. C'est quand même du moment où Scotty découvre le secret de Judy, qu'elle était la fausse Madeleine, elle va aller vers sa destruction. Et en même temps, à partir de ce moment-là, Hitchcock va aussi enlever tout le côté mythique qu'avait cette Madeleine, comme jamais Kim Novak aurait pu avoir l'air aussi noble et aussi digne et aussi froide.
Ce que je trouve incroyable dans le jeu de Kim Novak, c'est que quand elle est Judy et qu'elle se réhabille en Madeleine, elle ne peut plus être Madeleine parce qu'elle l'aime et que donc cette espèce de froideur qu'elle pouvait jouer à distance, elle est incapable de la maintenir en vrai.
Et puis il y a ce choix de tailleur, je ne sais pas qui était la costumière du film.
Edith Head.
Mais en fait, il y a... Effectivement, c'est une actrice assez charnelle, assez pulpeuse, et on a l'impression, et d'ailleurs, cet habit, on a l'impression qu'elle va exploser dedans, que c'est trop. Et toujours, comme chez Hitchcock, il y a cette idée d'emprisonner la sexualité, la sensualité dans ce costume, et c'est ça qui le rend aussi érotique, quoi.
Mais plus il l'emprisonne, plus en fait il la met en valeur.
Et après, quand elle est Judy et qu'il la croise dans la rue, elle n'a pas de soutien-gorge, elle a ce pull vert, elle est dans une sorte de sexualité débridée qui est dans ses yeux, dans les yeux d'Hitchcock. En fait, moi je trouve ça incroyable. Enfin, c'est sûr qu'il avait une vision des femmes absolument terrible, quoi. Dans ses films, elles sont toutes assassinées, coupées en morceaux. En fait, ce que je trouve dingue, c'est que j'ai entendu qu'il y a une histoire qui montre bien le rapport de Hollywood aux femmes à cette époque-là. C'est que c'est pas dans Vertigo, mais c'est dans Psychose. En fait, la Paramount avait vu la scène de la douche, et en fait ils avaient été hyper choqués par cette scène, pas du tout parce que la femme se faisait couper en petits morceaux, mais parce que juste avant elle va aux toilettes et elle tire la chasse d'eau, et qu'en fait Hitchcock il adorait en fait les bruits, en fait c'est lui qui a mis les bruits des baisers,
ouais.
Et donc le fait qu'elle tire la chasse, ça les avait choqués horriblement, quoi. Donc ça montre bien
le niveau
en fait de enfin, le rapport aux femmes, quoi.
Alors, pour continuer sur Hollywood et le rapport aux femmes, Kim Novak était au départ, elle appartenait à la Columbia, au studio Columbia, dont le patron était Harry Cohn, qui, quand il a engagé, lui a dit « Souvenez-vous que vous n'êtes qu'un morceau de viande dans ma boucherie ».
Ah bah voilà.
Sympathique. Ouais. Et quand il a accepté de la prêter à la Paramount pour faire Vertigo, il lui a dit « Je vous préviens, le réalisateur est génial, mais le scénario est nul ». Et moi, il y a une chose à laquelle elle me fait penser et auquel ce personnage me fait penser, à la fois Kim Novak jouant le rôle et Judy par rapport à Madeleine, c'est à Rebecca.
Mm-hmm.
Parce que dans Rebecca, Mrs. De Winter, la deuxième, prend la place de Rebecca et n'arrive jamais à remplacer Rebecca, la femme qui est morte. Et donc, il y avait ça chez Hitchcock souvent, donc, cette espèce de... une femme qui prend la place d'une autre, etc., etc.
Alors, oui, c'est aussi l'inconscient du film, en fait. C'est tout ce qu'il y a autour qui nourrit le film. C'est sûr que cette histoire de cette première actrice qui a été changée au dernier moment, ça habite les images aussi, quoi. Donc, c'est sûr que dans un film, il y a le scénario, il y a tout. Et puis après, il y a les hasards du tournage qui
Alors, vous parliez du tailleur gris. Ça a été une lutte terrible. Ce Kim Novak disait, mais je suis blonde, le gris clair, ça ne me va pas. Et il n'était pas question qu'elle change. Donc, elle n'a pas eu le choix du tout de son costume.
Mais, comme le
personnage. Elle dit que la seule chose qu'on lui demandait, c'était de savoir son texte, de tenir ses marques. Et Hitchcock, il mettait un métronome sur le plateau. Et à chaque prise, il augmentait la vitesse du métronome pour qu'elle parle plus vite. Et ce qu'elle dit aujourd'hui quand elle voit le film, c'est qu'elle déteste son maquillage et surtout les sourcils, qui, dit-elle, ne sont pas du tout assez épilés, même pour l'époque.
Ouais.
Alors, curieusement, il n'y a pas que Kim Novak que Hitchcock tenait à transformer.
Ce qu'il aimait beaucoup, c'était prendre des acteurs ou des actrices et leur faire changer complètement d'emploi, et même les changer complètement physiquement. Alors, il ne l'a pas fait du tout pour Grace Kelly, qui était très blonde et très belle, et il l'a utilisé, au contraire, en mettant en valeur, comme on le voit très bien dans Fenêtre sur cour, tous ses atouts, qui étaient nombreux. Mais en revanche, il a considéré, c'est une autre actrice du film, Brigitte Robert, qui me l'a dit, comme un peintre en train de peindre sa toile. Et donc, il n'y avait jamais un seul détail qui était laissé au hasard, aussi bien dans les robes que dans tous les détails du maquillage et du moindre costume.
Bruno Villien.
Il la modelait exactement comme Pygmalion modèle sa statue. Et il l'a fait avec d'autres actrices, alors là, en leur changeant leur apparence physique. Il l'a fait, par exemple, pour Eva Marie Saint dans La mort aux trousses. Et ce qui est, il a fait, c'était une actrice, une merveilleuse actrice, mais qui avait fait très peu de cinéma, et en particulier, elle avait fait Sur les quais, où elle jouait une jeune militante catholique. Elle était plutôt brune, et elle n'était pas très bien physiquement. Il l'a transformée en la blonde, une des blondes les plus sophistiquées de ses films, une espionne qui joue un double jeu, et elle l'a raconté. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il l'a emmenée chez des grands couturiers pour l'habiller, et il l'a dit lui-même, comme un riche monsieur emmène une dame qu'il entretient et qu'il veut transformer à son goût. Et ce qui est fascinant,
comme
c'est
dans Vertigo.
Ce que j'allais vous dire, voilà, c'est Vertigo, c'est l'histoire de Vertigo. Et c'est tout à fait passionnant parce que c'était pas la première fois qu'il le faisait. Et ça, c'était, on parlait des obsessions. Obsession n'est peut-être pas le mot, mais c'était, je crois, une grande source de plaisir pour lui de créer une actrice à partir d'une autre qui était la même. Ce qui est exactement l'histoire de Vertigo. Puisque là, on voit James Stewart faire ces choses-là, emmener Kim Novak chez les couturiers, lui faire changer de couleur de cheveux. Évidemment, Vertigo est encore plus intéressant puisque ce que voudrait faire James Stewart, c'est transformer Kim Novak, qui est bien vivante, en une morte.
Bruno Villien, chez Laure Adler, en 1984. Alice Vinocourt, vous avez fait tourner souvent des actrices. Comment est-ce que vous les modelez, vous ?
Moi, je fais exactement l'inverse. C'est-à-dire que moi, je prends des très belles femmes et je les mets en jogging. C'est-à-dire qu'Eva Green, elle porte quand même une laine polaire pendant tout le film. Il y a différentes teintes de laine polaire, de rouge à marron. D'ailleurs, Eva Green, elle me disait, mais quand est-ce que je vais être un peu sexy dans le film ?
Oh, elle l'est tout le temps, hein, parce que quand même, ses combinaisons sont assez sexy.
Diane Kruger, elle est aussi en jogging.
Ouais.
Bon, Soko, elle est nue, ça c'est c'est encore autre chose. Mais oui, en tout cas, pour moi, c'est sûr que forcément, ce qui est intéressant en tant que réalisateur, c'est de travailler, d'essayer de voir chez quelqu'un quelque chose et d'essayer de trouver une part inexplorée d'un acteur, surtout si c'est un acteur qui a énormément tourné, et d'essayer d'imaginer un personnage. Et ça passe beaucoup par, c'est sûr, le look.
Et des gens connus, par exemple Virginie Efira, avec qui vous vous apprêtez à tourner, vous n'avez pas ses rôles précédents comme un écran ?
Non, mais en fait, c'est juste d'avoir une vision de quelqu'un et d'essayer de tendre, d'aller vers cette vision, en fait. Ce fantasme, ce qu'on voit chez quelqu'un. Mais
donc, en gros,
pas inexploré, quoi.
Voilà, c'est ça. Essayez d'y voir quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas vu avant vous.
Oui, c'est ça, exactement.
Et c'est pareil pour les acteurs ?
Oui. Pour les acteurs, c'est pareil. Exactement. Avec Matt Dillon sur le tournage de Proxima, il y avait tout un travail. C'était dur pour lui parce qu'il devait jouer le mauvais rôle, le rôle du gros macho. On essayait de trouver quelque chose qui soit pas, qui soit aussi un peu différent. C'était aussi l'idée de travailler avec lui, d'avoir un acteur aussi incroyable et aussi intelligent. Pour jouer le mâle alpha, de montrer qu'il avait une complexité, en fait, qu'il était aussi autre. C'est ça que je trouve intéressant, à la fois au scénario et dans les films, c'est d'essayer de trouver la complexité chez les gens.
Alors Hitchcock, contrairement à ce qu'on croit, n'aimait pas beaucoup les femmes, mais quand même, la sienne, il l'aimait beaucoup, vous allez voir. J'aimerais mentionner devant vous uniquement quatre personnes qui m'ont donné le plus d'affection et d'encouragement et une collaboration permanente. La première est monteuse. La seconde est scénariste. La troisième est la mère de ma fille. La quatrième est la meilleure cuisinière qu'on puisse avoir dans une maison. Et les quatre portent le même nom. Alma Reville, c'était sa femme. Remise de prix, le American Film Institute Award en 79. Hitchcock, qui devant tout le monde, tout Hollywood, rend hommage à une seule personne, sa femme.
Je me demande ce qu'elle devait penser de tout ça, elle.
Ben, elle était à table, elle avait son petit sourire, elle disait rien, mais elle n'en pensait pas moins, visiblement. Alors, Alice Vinocourt, la musique, c'est quelque chose d'important pour vous. Est-ce que le rythme auquel vous faites parler vos acteurs Je parlais du métronome d'Hitchcock. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous importe, où chaque acteur amène sa propre musique et vous vous adaptez?
Ouais, je dirais même le son, en fait. Le son, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour moi, qui est même parfois à l'origine même d'un... quand j'écris, je pense le son avant les images. Et là, sur mon film, j'ai fait le dépouillement du son avant le dépouillement des images. En fait, au moment du découpage, c'est le son qui a amené les images. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Et donc, évidemment, après, le sound design, en fait, toujours dans cette idée que le cinéma doit être une expérience physique et sensorielle, en fait. Et après, la voix des acteurs, bah oui, évidemment, c'est hyper important. Sur Proxima, ce qui était compliqué, c'est que c'était des acteurs qui venaient de plein de mondes différents. Il y avait Lars Eidinger qui venait du théâtre allemand. Il y avait un acteur russe, Alexis Fateyev, qui venait du théâtre russe. Eva Green et Matt Dillon du cinéma américain. Donc c'était à chaque fois des techniques de jeu différentes et des manières de parler aussi différentes. Et il fallait un peu accorder toutes ces voix. Mais bon, c'était aussi ça qui était drôle, en fait, de trouver une langue commune qui était la langue du film.
Vous faites beaucoup de répétitions avec vos acteurs, ou vous les réunissez avant le tournage, ou comment est-ce
que ça dépend, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une méthode. J'ai l'impression que ça s'adapte à chaque, comme pour un scénario, en fait. C'est un peu la musique de chaque film, ou le rythme de chaque film, et du coup la manière de travailler qui s'impose à ce moment-là.
Et vous écrivez en pensant à un acteur, même sans savoir si vous pourrez tourner avec lui. Vous avez besoin d'être un visage quand vous écrivez, ou pas nécessairement?
Je le fais souvent. Je sais pas si c'est la meilleure chose, parce que bon, déjà parfois
ça n'aboutit pas.
Et en plus, après, je pense que c'est pas la meilleure manière aussi de penser à un personnage, parce que finalement, en fait, quand on écrit un personnage, quand on pense à une personne, on remplit le personnage de la personnalité de cet acteur, alors qu'en réalité, et du coup on sous-écrit un peu les choses, en fait.
Oui, parce qu'on lui fait trop confiance.
Parce qu'on lui fait trop confiance, ouais. Il faut pas faire trop confiance.
Alors moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de James Stewart, d'abord parce qu'il est merveilleux dans le film d'Hitchcock, comme dans tous les films dans lesquels il a joué. Alors l'archive qu'on va écouter, j'y tiens beaucoup, parce que c'est un extrait de cette émission sublime, mythique de cinéma qui s'appelait Cinéma dans les années 80 sur France 2, je crois. Et ce qu'il y avait de magnifique dans cette émission, c'était qu'elle était mise en scène comme un film. Et là, au lieu de prendre uniquement l'extrait de James Stewart parlant de son rapport à Hitchcock, je vais vous faire écouter tout le sujet, parce que la manière de mettre en scène l'arrivée de James Stewart et la manière dont ils le décrivent, vous allez voir, on est au cinéma. Donc il entre dans un grand hôtel.
Il arriva vers le milieu de l'après-midi, les bras ballants, avec sa dégaine de grand singe anthropomorphe qui semble dire « Fouillez-moi, je n'ai rien dans les mains, rien dans les poches. » La parfaite victime hitchcockienne. On aurait dit que le plan américain avait été inventé à son usage exclusif. Pour rejoindre le petit salon où nous l'attendions, il lui fallait traverser le hall encombré de l'hôtel. Ce devait être l'heure du thé.
Et là, il s'assied.
Hello. Mr. Stewart, do you remember precisely your
first encounter with Alfred Hitchcock?
Can you tell us about it?
Pouvez-vous nous la raconter?
Well, I'd be he sent me the script of the picture Rope.
Il m'a envoyé le scénario de La Corde, le premier film qu'on ait fait ensemble.
The first picture I did for him. I really don't know where we met for the first time.
Je sais plus où on s'est croisé la première fois.
He had an office out at the studio, and I think we.
Il avait un bureau dans les studios. Il m'a d'abord envoyé le scénario.
Then I went back out.
Je suis allé le voir. Il m'a dit plus tard qu'il avait peur de devoir me persuader, mais moi j'en crevais de tourner avec lui, comme tout le monde.
Alfred Hitchcock, as was everybody else in the business. But that's the first time.
C'est la première fois qu'on s'est vu. On s'est peut-être croisé dans des soirées, mais professionnellement c'était la première fois.
He had the reputation of being no great.
On dit qu'il n'aimait pas beaucoup les acteurs,
but he had a big esteem
mais il avait
you.
Beaucoup d'estime pour
How
vous.
Can you explain
Comment
this?
Vous expliquez ça?
Well, I think that not paying attention to actors.
Je crois pas que je sois d'accord avec vous sur le fait de de ne pas aimer les acteurs. Il est arrivé sur le plateau mieux préparé que n'importe quel réalisateur avec qui j'ai travaillé. Il passait 6 mois sur un scénario. Il en connaissait chaque détail. Puis après, il l'oubliait. C'était un homme très visuel. Il préparait le plan. Je
ne
l'ai jamais vu mettre l'œil à la caméra. Il se mettait derrière le caméraman et il cadrait avec ses mains. Et ce qu'il voyait, c'était le plan. Puis après, il s'asseyait, il attendait que les lumières soient prêtes. Et là, il nous faisait venir. Il disait, ben voilà, c'est le plateau, marchez. Vous voyez comment vous vous sentez. Et puis jouez là. Et c'est ce qu'on faisait. C'était sa manière de faire. Il y a peu de gens qui font comme ça, mais avec lui, ça marchait. James Stewart, vous avez vu cette espèce de mise en scène. C'est pas nous qui avons mis la musique de Vertigo.
Oui,
hein.
c'est la musique.
C'est le sujet.
Ouais, non, mais moi j'adore vraiment cet acteur. C'est d'ailleurs, je trouve, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le regard masculin, finalement, je trouve que c'est un acteur qui est aussi assez féminin, en tout cas qui a une grande part féminine. Donc je pense que c'est aussi ça qui déjoue le programme du film, juste d'un homme qui fantasme sur une femme mystérieuse, quoi. C'est qu'il a, c'est pas le mari, quoi. Le mari qui est vraiment le mâle américain de base. Oui, il a vraiment, il y a une forme de féminité, de maladresse chez lui. Qui est vraiment très belle, quoi, de fébrilité. Moi, je sais que j'ai même fait peut-être du droit à cause de lui.
Pourquoi ?
Par sa faute. Parce qu'en fait, je regarde parmi les films qu'il y avait dans la cinémathèque familiale, les films de magnétoscope, un film qui était en entier aussi, c'était Mr. Smith au Sénat.
Ah, voilà.
Et voilà, en fait, c'est, je crois, à cause de ce film que j'ai fait 5 ans de droit. parce que oui, il est incroyable, quoi.
C'est un acteur qu'on croit.
On croit à tout, et il a une sorte de poésie aussi. Sa manière de parler, comme ça, un peu fébrile, quand il lit la Constitution américaine, debout, prêt à s'évanouir. C'est trop beau, quoi.
Oui, mais il a une espèce d'hésitation naturelle.
Oui, c'est ça, il a une fébrilité, il a une sorte de part féminine, vraiment, je trouve. Aussi dans Fenêtre sur cour, quoi. Et surtout, moi, ce que j'aime bien aussi dans ces films, dans Vertigo, et je pense aussi à Fenêtre sur cour, c'est l'idée de raconter un film dans les perceptions altérées d'un personnage, en fait. Et ça, il fait ça hyper bien dans Fenêtre sur cour aussi, quoi. D'être dans la perception, vraiment dans le point de vue de quelqu'un qui a une sorte de... Oui, de détresse, des sens, quoi.
Tout est dans le ressenti, en fait.
Ouais, dans le ressenti. D'ailleurs, il y a ce truc de l'effet vertigo. c'est vraiment l'idée d'épouser le point de vue d'un personnage tellement précisément. Bon, moi, c'est pas ce que j'adore dans le film. Je trouve ça un peu kitsch, ce côté un peu travelling, un travelling avant et arrière. Enfin, ça fait une sorte d'effet qui fait ressentir, en fait, ce qu'on voit véritablement quand on a le vertige.
Oui, l'effet qu'il n'arrivait pas à faire sur Rebecca, ouais. Quand Mrs. Danvers veut la pousser dans le vide et qu'elle regarde par la fenêtre, il n'était pas content de ce qu'il a fait sur Rebecca, donc il l'a inventé là.
Je trouve ça beau, cette idée d'épouser vraiment complètement les sensations d'une personne, les sensations physiques.
Alors, l'écriture du scénario de Hitchcock, Truffaut la raconte à Laura Adler.
Il pensait que c'était pas, on n'avait pas besoin de grande littérature pour faire un film, qu'on avait besoin simplement d'une bonne histoire solide, comportant une progression, comportant un personnage attachant à qui il arrive des choses intéressantes, et puis comportant une bonne possibilité de progression dramatique. Donc c'était ça. Il lisait des romans policiers, ou même simplement des résumés qu'on lui faisait aussi, que le studio lui faisait. Dans tous les studios américains, il y a des choses comme ça. Et alors, d'après ce qu'on lui faisait lire, là, il disait, oui, ça peut travailler ou ça ne travaillera pas. C'était ça l'expression. Et je pense qu'il avait un bon sens de ça.
Hitchcock, Truffaut. Vous vous rendez compte que Truffaut a changé la carrière d'Hitchcock quand même. Hitchcock était totalement méprisé aux États-Unis et on pensait que c'était juste un faiseur de série B. Et il a fallu que Truffaut s'y intéresse pour que il soit anobli. Et ce qui me fascine, c'est de se dire que tout ce livre que Hitchcock a fait avec Truffaut, Truffaut ne parlait pas un mot d'anglais. Je trouve ça absolument incroyable.
Il y avait la traductrice. Oui. Non, mais c'est un des plus beaux livres de cinéma.
On peut apprendre le cinéma dans un livre ?
Je l'ai pas fait, en tout cas, mais je pense que oui. En tout cas, ce livre-là, c'est sûr qu'il est très concret aussi. C'est ça qui est génial, c'est que il raconte vraiment des anecdotes de comment il faisait, justement les scènes du baiser. C'était toujours hyper compliqué. La scène dans Vertigo où il y a la caméra qui tourne autour d'eux. Enfin,
on va la voir cette scène.
Petite transition.
On va la voir. On va aller directement à cet extrait, le fameux extrait qu'on peut appeler. Je ne sais pas, le baiser, la salle de bain, la révélation, comme vous voulez. Allons-y. Donc James Stewart a envoyé Judy se faire changer en blonde. Mais ça va pas, vos cheveux, ils devaient être tirés en arrière et attachés, je vous l'avais dit. Oui, on a essayé, montré que ça ne m'allait pas. Alors il insiste, il dit, mais s'il te plaît, Judy... Et elle résiste. Mais elle voit bien qu'il l'aimera jamais comme ça. Donc elle accepte et elle part dans la salle de bain faire le chignon qu'il attend d'elle. Et là, porte de la salle de bain verte évidemment, on reste sur James Stewart qui fait les 100 pas dans la chambre en se demandant si vraiment la femme qu'il aime va réapparaître. Il regarde par la fenêtre le néon vert de l'hôtel. On sent qu'il est complètement rongé par l'attente. Cette scène-là, Hitchcock dit qu'elle est nue, mais il attend qu'elle enlève sa culotte. Voilà comment il décrivait cette scène. Il regarde la porte de la salle de bain, il regarde le néon, tout est vert, il est plongé dans cette lumière verte. Il a le dos tourné à la porte, la tête penchée, et il attend. Il entend des petits bruits de la salle de bain, il se retourne, la porte s'ouvre. Il se lève. Il la regarde, nous on voit pas ce qu'il voit encore. Et voilà, elle arrive, c'est elle. Et elle est filmée dans une espèce de brouillard, comme une ombre, comme si elle n'était pas réelle, comme si elle était un fantôme. Et petit à petit, elle sort de l'ombre et devient réelle. Et petit à petit, il sourit. Et elle, très sérieuse au départ, commence à lui sourire aussi parce qu'elle sent qu'il l'aime. Et elle se dit, ça y est, il m'aime enfin pour qui je suis. Ils s'approchent très lentement l'un de l'autre. Il prend son visage entre ses mains. Il l'embrasse. Il l'embrasse. La caméra tourne très lentement autour d'eux. Et petit à petit, imperceptiblement, pendant qu'ils l'embrassent, derrière eux, ce n'est plus le décor de la chambre, mais c'est le décor des écuries espagnoles où il avait embrassé Madeleine la dernière fois. Et là, il a les yeux ouverts, il s'éloigne de son visage parce qu'il voit ce décor d'écurie. Et puis ça y est, maintenant, il est avec Madeleine, enfin il l'embrasse. On revient dans la chambre. C'est le premier et unique moment de bonheur de James Stewart avec cette femme, qu'enfin il possède. Et écoutez bien, c'est aussi le seul moment du film où la musique se termine. Le seul accord positif en majeur du film, c'est celui-là. Voilà, le film peut s'arrêter, il a récupéré Madeleine, pas du tout. On imagine après l'amour, elle est dans la salle de bain. Où est-ce qu'on va dîner ? Chez Ernie's ? Oui, vous aimez bien aller là-bas. Hein. Bah oui, c'est un peu notre endroit. Elle revient, elle a une robe noire qu'ils avaient choisie ensemble, elle est ravissante. Mon chéri, je te plais ? Oui, oui. C'est tout ? Viens par là. Ah non, tu vas me... Tu vas me chiffonner. Bah oui, c'est ce que je voulais. Non, c'est trop tard, je suis maquillée. J'ai faim. Tu veux qu'on aille ailleurs ? Non, mais Ernie, ça me va. Je vais aller... Je crois que je vais prendre un bon steak. Voyons. En entrée, je sais pas, tu m'aides ? Elle met un collier qu'on voit pas. Donc il vient derrière elle et il l'aide à l'attacher, mais c'est compliqué, il trouve pas la fermeture. Comment tu fais ce truc ? Ah, ça y est, c'est bon.
Thank you.
Merci. Je suis presque prête. Où est mon rouge à lèvres ? Et là, il la regarde dans la glace et le collier qu'il lui a mis, il le reconnaît. C'est le collier rouge que Madeleine regardait dans le tableau dont parlait Alice tout à l'heure. Le tableau de Carlotta, cette femme qui soi-disant l'obsédait. Elle peut pas avoir ce collier de Judy, c'est donc la preuve qu'elle a menti et qu'il y a eu une machination. Il a compris James Stewart. Et d'un seul coup, elle voit qu'il a bizarrement changé. Elle lui dit, allez, chiffonne-moi un petit peu, embrasse-moi. Il la prend dans ses bras. C'est moi que tu aimes maintenant, n'est-ce pas ? Tu veux pas qu'on aille dîner ailleurs ? Qu'on prenne la voiture, qu'on aille rouler le long de la baie ? Bon, si tu veux. Et voilà, et on avance vers la fin tragique et inexorable du film. C'est terrible, hein, en 4 minutes, la vie de cet homme, il passe du plus grand bonheur au plus grand malheur.
Ouais, c'est vraiment là le moment où elle sort des toilettes, c'est vraiment Orphée. D'ailleurs, il est de dos, il veut pas la regarder, et puis il la regarde quand même. C'est aussi une sorte de métaphore du cinéma, un peu de dire que c'est une illusion, parce qu'elle est complètement... il y a ce filtre, en fait, qui la rend complètement irréelle, mais en fait, il embrasse cette illusion, il se dit qu'il va croire à cette illusion. Et un truc, et la musique, elle est vraiment... Enfin, c'est presque un orgasme, cette musique. Ça fait que monter.
C'est ça l'idée. Ah là là, le cinéma, c'est quelque chose.
Ouais.
On va écouter Alfred Hitchcock qui nous explique quel est le but qu'il recherche quand il fait un film.
All art is experience. People look at an abstract.
Là, c'est une expérience. Les gens regardent un tableau abstrait et disent « je déteste ça ». Mais dire qu'ils le détestent, c'est dire qu'ils vivent quelque chose. C'est-à-dire qu'ils l'aiment ou ils le détestent, mais ils ressentent quelque chose. Et c'est ça qu'il faut faire au cinéma.
Ce n'est
pas le sujet qui compte, l'histoire. C'est ce que vous en faites. Alice ?
Oui, d'accord. Non, c'est vraiment... D'ailleurs, moi, ce que je trouve incroyable, c'est comme il a créé des images... ce rapport aux images plastiques, quoi, où c'est comme des peintures et où ça influence, enfin, c'est comme des images, j'ai l'impression qu'ils sont même presque dans l'inconscient collectif, quoi, que ça influence même l'art contemporain, enfin, l'image d'elle face au tableau avec le chignon, l'image de, enfin, je sais pas, il y a un million d'images comme ça extrêmement, très marquante, qui a inspiré même, je sais pas, Cindy Sherman, même, et des réalisateurs, quoi, de Mulholland Drive, de...
Absolument.
Il y a comme ça une espèce de... En fait, il lance comme ça des images qui arrivent dans l'inconscient collectif, quoi.
Il y a aussi une chose dont on peut parler, c'est la... On parlait de la sensualité chaste tout à l'heure, et on sort du code Haynes, donc de cette période où vraiment il y a un immense puritanisme dans les images. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, après qu'il est sorti de la noyade, elle est chez lui, donc on les retrouve chez lui, elle est au lit. Visiblement, elle est nue, mais Hitchcock n'a pas le droit de le montrer. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il nous montre la porte entrouverte de la salle de bain, et dans la salle de bain, on voit ses vêtements et ses sous-vêtements qui sèchent. Donc on comprend, un, qu'elle doit être nue dans le lit, et deux, comme elle était évanouie, que c'est forcément lui qui l'a déshabillée. Tout est comme ça dans le fantasme. Il y a une manière de mettre en scène ce qu'on n'a pas le droit de montrer.
Oui, mais c'est ça aussi, j'ai l'impression, les films, c'est pas forcément de tout montrer, mais de laisser des trous pour l'imaginaire. D'ailleurs, on voit bien dans cette scène où elle regarde la peinture, qu'on voit, il n'y a pas le plan où elle regarde le tableau. En fait, on n'est que dans son point de vue à lui, mais pourtant, d'ailleurs, moi, c'est peut-être le plan qui m'intéresserait aussi de savoir ce qu'elle ressent, elle, mais en même temps, voilà, on est dans sa subjectivité à lui, ouais. Et ça crée une sorte de désir de voir ce visage, et c'est ce manque qui crée le désir, quoi.
Et c'est quelque chose dont vous avez conscience quand vous écrivez un scénario, de laisser des trous, de laisser de la place au spectateur.
En fait, pour moi, le cinéma, c'est vraiment le lieu qui me connecte à mon enfance. J'essaie de rester dans la même connexion à l'inconscient, en tout cas, parce que j'ai l'impression qu'on fait vraiment toujours les films avec son inconscient, et du coup j'essaye de le plus possible, en tout cas, de garder cette espèce je sais pas, en fait, d'état, en tout cas de l'enfance, de ne pas forcément penser à tout.
On va c'est l'heure maintenant, peut-être, de notre instant Godard. Qu'en pensez-vous?
Je veux dire, c'est bien gentil de répondre à ces questions.
Donc en attendant, vendredi prochain, le 13 août, l'interview exclusive de Jean-Luc Godard. Tous les jours, je lui parle du film du jour. Donc Jean-Luc Godard, qu'avez-vous à me dire de Vertigo?
Je veux bien, mais il y a trop de faiblesses. Ben, il a été lancé par les littéraires. Il a une réputation dans le littéraire, de Chris Marker, d'autres, ou comme ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de faiblesses, de trucs en transparence qui sont pas dominés, qui sont pas dominés comme d'autres choses dans le film, qui sont dominés comme on tourne en transparence parce qu'on va pas transporter James Stewart dans toutes les rues de San Francisco et comme ça.
La transparence, c'est un truc dont il parle beaucoup.
En tout cas, c'est juste, je pense que ça fait partie aussi de la vieillesse de brûler ce qu'on a encensé. Et je pense que ce film, il était tellement important, en fait, pour tous ces gens de la nouvelle vague, que je pense que, enfin, c'est des choses que j'ai entendues aussi dernièrement, que le film ne serait pas aussi bien que ce qu'on a pensé. Mais je pense que ça fait partie des fluctuations de la critique, en fait, d'aimer, de porter au nu, de détester, etc., etc.
Nous, on s'en fout, on l'aime,
on s'en
le film.
Fout. Exactement.
Alors Martin Scorsese, qui est un fan absolu de Vertigo, a cette expression magnifique, je trouve, sur le film. Il dit que le film est comme une corde à linge sur laquelle Hitchcock a accroché des formes poétiques. C'est joli, non ?
Ouais, c'est cette poésie quoi, cinématographique, où effectivement l'histoire est pas si importante, il y a que les images le sont.
Et le ressenti.
Et le ressenti, ouais.
Qu'on en a. Mm. Bon, on va garder un peu de Bernard Herrmann et on va passer au questionnaire peut-être ?
Oui.
Avec cette musique oppressante. Alors Alice Vinocourt, la première séance, vous vous souvenez?
La première séance dont je me souviens, je devais avoir 10 ans, donc c'était bien après les films d'Hitchcock. Mais les films d'Hitchcock, je les voyais à la télé. C'est Alice dans les villes, le film de Wim Wenders. En fait, c'est un film que j'ai été voir avec ma mère. C'est, je pense, une des seules fois où j'ai été toute seule au cinéma avec elle. Et c'est un film qui m'a vraiment... ultra impressionnée. Je ne sais pas si c'est aussi parce qu'elle s'appelait Alice, la petite fille, et que je devais avoir à peu près le même âge. Mais ça m'a totalement bouleversée.
De quoi ça parle, Alice dans les villes ?
En fait, c'est d'ailleurs marrant parce qu'elle m'avait dit qu'on devait aller le voir parce que je n'aimais pas l'allemand, en fait, puisque pour moi, c'était une sorte de langue de nazi. Et elle me disait, non, mais l'allemand, ça peut être vraiment aussi une très belle langue. Et c'est cette espèce de dérive, d'errance de cette petite fille avec cet homme qu'elle a rencontré à l'aéroport. Et donc, elle, comme sa mère l'a abandonnée, elle cherche sa grand-mère. Et du coup, il y a beaucoup de poésie aussi dans ce film.
La dernière séance qui vous est marquée?
C'est Memoria, le film de Happy Chapong. Veracetacul. C'est autour des perceptions, en fait, c'est cette idée, en fait, de cette femme qui a ce bruit dans sa tête et qui essaye de s'en défaire. Enfin, c'est une idée tellement simple et qui est en même temps tellement enfin, tellement incarné, tellement physique, en fait. Ça m'a...
Je ne l'ai pas vu, mais comment on met en scène le son comme ça? Parce que c'est vraiment une mise en scène du son.
Oui, bah, il faut que vous voyez le film, mais dans ce film, justement, c'est, je ne vais pas spoiler le film pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais il y a un moment où, justement, elle essaye de décrire à quelqu'un le son qu'elle entend dans sa tête, et c'est un ingé son, et en fait, il décrit le son, et je ne sais pas, il y a à peu près 10 lignes pour décrire le son qu'elle entend, comme il peut y avoir dans les sonothèques des ingé sons, parce qu'en fait, il n'y a pas de mots pour décrire certains sons.
Et c'est Tilda Swinton, l'héroïne.
Ouais.
Votre film de chevet?
Alors, c'est Faux semblant de Cronenberg. En fait, c'est le cinéma de Cronenberg.
Je plus sois.
Oui, voilà, c'est ce cinéma-là, justement, très physique et sensoriel. C'est un cinéma qui est très important pour moi. Le rapport au corps aussi, évidemment.
Et l'histoire de deux frères, là aussi, il y a une histoire de double.
Exactement.
Très, très, très beau film avec Jeremy Irons dans deux rôles.
Ouais.
La meilleure chose qu'il ait faite de sa vie, je pense.
C'est clair.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre?
Alors ça, c'est Le Guépard de Visconti.
Pas mal, pour les robes.
Pour les scènes de bal. D'ailleurs, j'aimerais bien tourner des scènes de bal un jour, en fait. Mais j'adore ce moment où ils vont se promener dans le palais, et où, en fait, avec Alain Delon, et il lui dit qu'on ne devrait pas connaître toutes les pièces des palais où on habite. Je trouve ça bien comme concept. Mais aussi, c'est un rapport avec l'inconscient, je trouve. On doit toujours continuer à chercher.
Le classique qui vous laisse de marbre?
Alors là, c'est Le Genou de Claire.
C'est Romère en général, mais ou celui-là en particulier?
Il n'y a pas assez de trauma dans ce film, pour moi.
Je vous signale que l'autre jour, Jacques Audiard, à la question, votre film préféré, dans le film dans lequel vous aimeriez vivre, il avait dit Le Genou de Claire, un film de Romère, parce que la pire chose qui puisse vous arriver dans un film de Romère, c'est d'avoir oublié votre serviette de bain. Non, pas pour vous. Bon, alors, la pépite que personne ne connaît.
En fait, c'est Savage Eyes, l'œil sauvage. C'est un film de la contre-culture américaine des années 60. Mm-hmm. Et en fait, c'est la dérive d'une femme dans la ville de Los Angeles. Et on entend sa voix off pendant tout le film. Et c'est des images documentaires sur la ville et sa décadence. Et c'est la voix off de cette femme qui vient d'être divorcée et qui se parle à elle-même. Et en fait, elle parle à sa conscience, qui est une voix off d'homme. Elle dialogue avec un homme, en fait. Et sa conscience.
Et qui a mis en scène?
C'est, en fait, il y a 3 ou 4 réalisateurs, puisque c'est ceux qui ont fait ces images, qui filment la décadence de cette ville. C'est vraiment un film très, très beau.
Je ne connais pas du tout. Le film dans lequel vous aimeriez vivre, en fait, on n'en a pas parlé de celui-là.
Mais c'est pas Le Guépard?
Ah, c'est oui, pardon, excusez-moi. C'est moi.
Le Guépard deux fois, donc.
Deux fois Le Guépard, votre voix de cinéma préférée?
Alors, il y en a beaucoup, évidemment, mais il y a Trintignant.
Oui.
Qui est une voix aussi. Et puis, il y a la voix d'Aurore Clément.
Ah oui.
J'adore, en fait, Aurore Clément, les Rendez-vous d'Anna, le film d'Ackerman. Mm-hmm. Et aussi, j'adore quand elle parle américain avec un accent français. Parce qu'elle a vécu aux États-Unis, je ne sais pas combien de temps, mais elle continue de garder son accent à la Jean-Paul Gaultier. Mais en beaucoup plus beau. Y a aussi vraiment... moi, j'adore les accents dans les films, en fait. Je trouve que c'est vraiment cinématographique. La voix d'Anna Karina, justement, tous les accents, en fait.
Votre salle préférée?
C'est, comment ça s'appelle, sur les grands... Le Max Linder. Ah. En fait, justement, pour le son, en fait, sur la mezzanine, c'est le meilleur endroit pour voir un film à Paris.
Votre prochaine séance?
Bon, ma prochaine séance, c'est un film de Kira Kovalenko, Les Poings desserrés. En fait, j'adore les films russes de cette génération, les films de l'école de Sokurov. Il y a une sorte de vitalité, d'énergie. Tesnota, en fait, c'est un film qui m'a énormément marqué.
Tesnota de Kantemir Balagov.
Ouais.
Votre vœu cinéphile?
Mon vœu cinéphile, c'est que les cinémas de quartier continuent de vivre. Il y a pas longtemps, j'ai été présentée Proxima au cinéma de La Clé. Et je voyais tous les gens qui se battaient pour que cette salle reste,
survive.
Ouais, ouais. Et en plus, je trouve que La Clé, c'est un très bon nom pour un cinéma.
Merci Alice Vinocco.
Merci.
Bon week-end. Lundi, nous parlerons de la leçon de piano avec Isabelle Huppert. Donc cette émission aujourd'hui a été, comme tous les jours de la semaine, réalisée par Doria Zénine, préparée par Meryl Moneghetti et Lila Bozos. Et aujourd'hui, à la technique, c'était Dalia. Portez-vous bien. Bon week-end, à lundi.